Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. J'aimerais que nous fassions une lecture dans un livre qui est fort connu dans notre Bible, et c'est certainement des plus usités, c'est dans le livre des psaumes. Je vais vous donner les références d'ici quelques instants. Et j'aimerais faire une petite introduction sur les livres prophétiques de la Bible. Il y en a 5. Et j'aimerais en donner le sens, parce que ça va être le sujet commun de ce que nous ouvrons dans ce chapitre 66. Donc vous avez ça un petit peu par morceaux, hein. Donc psaume, chapitre 66, je vais vous dire après tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions entreprendre notre réflexion. Et je dirais simplement qu'il y a là un lieu commun dans tous ces livres poétiques, avec des poètes qui ont écrit sur la vie. Oui, la vie, dans une autre époque, dans un autre temps, mais qui vaut pour nous aujourd'hui, dans notre siècle, hein, et plus que jamais d'ailleurs, hein, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé, ça c'est clair. Le livre de Job nous parle des souffrances sur cette terre et des fins heureuses de ceux qui sont justement tenus dans la souffrance. Job, on connaît. Le livre des psaumes nous parle des chagrins et des joies dans le secours divin. Alors on a naturellement à l'esprit toutes sortes de passages. Le livre des proverbes, c'est l'art du bonheur. Eh oui. Présenté d'une manière, présenté d'une autre. Le livre du bonheur. On pourrait peut-être y ajouter, mais moi je ne veux pas m'arrêter à ça, le livre qui nous parle finalement d'enlever le malheur de la vie des hommes. Enfin, d'évacuer le malheur. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est comment, d'une manière très habile, d'une certaine sagesse, eh bien là, de fuir le mal et de s'attacher au bien. Fais ceci, mon fils, etc., etc. Et puis également, le livre de l'Ecclésiaste, eh bien c'est la vanité de l'existence et l'utilité de la vie. Ouais, une vie heureuse, naturellement. Le cantique des cantiques, où nous avons eu il y a quelques années, eh bien là, le privilège de pouvoir l'étudier entièrement ici, le mercredi soir, si pour ceux qui s'en souviennent. Et ce sont les peines de l'amour, mais de l'amour victorieux, à plusieurs niveaux. Alors, tout cela, eh bien, c'est le secret des épreuves que nous livrent les livres poétiques. Sous l'angle, écoutez bien, sous l'angle de la volonté permissive de Dieu. Pourquoi cela m'arrive? Je suis chrétien, je suis croyant, et pourtant ça m'arrive. Eh oui. Alors pensez au mot école, au mot formation. Pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Instruction. Voilà. Donc, secret des épreuves qui nous parle de, quelque part, la volonté permissive de Dieu. Et ce matin, puisque je l'ai à cœur, je voudrais tout simplement ouvrir, avant de lire le texte de référence, me souvenir des paroles que Jésus nous laisse dans Matthieu chapitre 11 et verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix, je vous donnerai la délivrance. » Mais c'est formel, mes frères et sœurs. Cette semaine, j'ai eu à affirmer, je ne sais pas auprès de qui, mais dans des situations qui étaient particulièrement douloureuses, où là où les personnes, je ne me souviens plus, mais là où les personnes étaient effondrées, écroulées, écrasées par un véritable fardeau qui n'en était pas finalement, et bien là, c'était pas une passager, hein, c'était quelque chose qui a duré, qui durait. Et de dire, mais le sache ou sachez que le mal n'aura jamais la victoire sur le bien et Dieu fera triompher le bien dans ta vie et dans votre vie. Ça, mais c'est psychologique, hein. Il faut d'abord que ça rentre dans notre tête, d'abord dans notre cœur, et puis de pouvoir le vivre. Non, Dieu, et ce matin, on n'est peut-être pas très nombreux, mais moi, je voudrais vous lire parce que vous êtes là. Ceux qui ne sont pas là, ben, ils ne sont pas là, c'est tout. Hein. Mais, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui pourraient être là et qui sont profondément malheureux, mais peut-être qu'ils sont enfermés dans leur prison à eux. Et ça leur ferait du bien d'entendre, quelque part, non pas le message d'Alain, mais le message de la parole que nous allons ouvrir maintenant. Ça, c'est important. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quel soulagement de rentrer dans le repos après la guerre, après les conflits, après tout ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes et aussi dans notre propre cœur. Le titre que j'ai donné à notre réflexion, c'est « Consolation dans la brume ». Eh oui, « Consolation dans la brume ». Brumes et brouillards. Alors, c'est souvent au mois de novembre, pendant la saison hivernale, mais quelquefois, il peut y en avoir en plein été, hein, ça c'est certain. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes au volant d'une voiture, je prends un exemple très simple, quand il y a, non pas du crachin breton, parce que bon, ça va encore, hein, on est mouillé, mais quand il y a une brume ou un brouillard intense et que vous ne voyez rien et vous pouvez rentrer, à un moment donné, il y a du soleil, vous rentrez là-dedans en l'espace de quelques fractions de secondes ou de minutes. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Et je crois que ce brouillard, eh bien là, nous impose une visibilité réduite. Ça vous est arrivé quelquefois, pardon, de tomber dans ce genre de piège. Enfin, c'est un piège climatique, hein. De toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Eh oui, ça nous arrive d'avoir de grands brouillards ici à certaines saisons. Hein. Et alors, ben, qu'est-ce que l'on fait quand on est au volant d'une voiture? Eh bien là, je roule à 130. Et on verra bien ce qui est devant. Eh oui, mais alors à ce moment-là, panneaux d'avertissement et tout ça, on va les respecter. Hein. Je peux vous dire, on ne les voit même plus d'ailleurs. Quand vous regardez sur le bord de la route, à 10 mètres, vous ne voyez rien du tout. Hein. Ça, c'est certain. Alors, visibilité réduite. Et je voudrais dire qu'il y a certainement des frères et des sœurs, quels qu'ils soient, qui sont peut-être fougueux, qui sont là véritablement en train de faire tous les efforts nécessaires pour eh bien, là, agiter leur vie ou s'agiter eux-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, il faut qu'ils régressent. Il n'y a pas de problème hein, s'ils veulent vivre. Hein, parce qu'on a connu des accidents de la route là, catastrophiques. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, sur l'autoroute qui menait à Bordeaux, à Prégnors, hein, là, il y a eu des voitures qui se sont encastrées parce que le brouillard est tombé d'un seul coup. Je crois qu'il y avait, je n'ai pas vérifié, hein, mais je crois qu'il y a eu 10, 20, peut-être même plus. Hein, et l'autoroute a été fermée pendant une journée hein, pour désincarcérer. Et puis le lendemain matin, il n'y avait plus rien du tout. Hein. On n'aurait pas pensé qu'il y a eu un terrible accident à cet endroit. Enfin, je cite ça, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Alors, il y a un principe que je vais mettre devant vous tout de suite dans le brouillard. La lumière qui nous éclaire, c'est la foi en Jésus-Christ. Ah oui, la foi en Jésus. Et quand on se sortira du brouillard indemne, eh bien, ça sera la grâce. Parce qu'on ne sait pas ce que l'on va rencontrer, même en roulant à petite allure. Eh oui, c'est ainsi. Et je dirais que la foi, je parlerai de Jésus naturellement, mais de la foi, c'est notre pilote automatique. Vous savez que les avions atterrissent quelquefois sur les aéroports alors qu'ils ne voient rien du tout. Hein. Et là, il y a un décrochage du pilote et puis ça, c'est la tour de contrôle qui va tout opérer. Hein. Et on se demande, c'est des milliers d'avions hein, dans différents pays autour de la Terre. C'est comme ça. Ils ne voient rien, mais... Et ça, c'est une question de confiance. Vous savez, quelquefois, nous, les passagers, on se dit, mais... C'est terrible. Je vois même pas l'aile de l'avion quand je regarde par le hublot. Je vois rien du tout. Comment il va faire? Ben, il le fait. Voilà. Ça, c'est les techniques modernes, naturellement. Parce que c'est, nous rentrons dans une zone de danger. Et les dangers sont multiples. C'est ainsi. Et j'aimerais associer à notre pensée ce matin la guérison de nos traumatismes existentiels. Eh oui, on a tous quelque chose dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan moral, sur le plan intellectuel. Ah ouais, mais moi je suis pas grand chose, j'ai pas fait d'études, etc., etc. Et qui vont nous suivre très très longtemps, peut-être même jusqu'à la mort. On a dit voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc nos traumatismes, nous avons tous, mes frères et sœurs, des traumatismes familiaux, des traumatismes conjugaux, des traumatismes de l'enfance, de l'adolescence, de toutes sortes de choses. On n'est pas indemne quand on arrive sur la terre, ça c'est certain, même si on est innocent pour un petit enfant. Mais à un moment donné, on va glaner un peu toutes les choses qui vont nous arriver en fonction du milieu dans lequel nous avons été conduits, éduqués, ce que nous avons appris ou ce que nous avons refusé peut-être d'apprendre. Alors, on va lire ce passage. C'est un message d'évangélisation, mais quelle portée pour les chrétiens aussi aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, je vous ai dit, psaume 66 et le verset 9 à 12. Et vous allez voir que là, il y a de la dynamite pour exploser finalement nos traumatismes. Vous allez voir. Alors, psaume 66, 9. Ou 8 si vous voulez, ça va faire un petit peu une petite introduction. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir ses louanges. C'est l'exhortation qu'on vous a adressée ce matin. Parce que, il y a des raisons, il a conservé la vie à notre âme. C'est pas la vie à notre corps seulement, heureusement, mais à notre âme, notre état intérieur, qui doit être dans le repos, la quiétude, la foi, la confiance, dans la joie, notre âme. Il y a des gens qui sont en bonne santé physiquement, mais qui sont véritablement malades à l'intérieur d'eux-mêmes. Je parle des chrétiens, alors je parle pas des autres, naturellement, c'est une autre affaire. Donc, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. On en parlera. Tu nous as amenés dans le filet. On pouvait passer à côté. On a cherché longtemps à passer à côté. Pourtant, à un moment donné, pour les enfants de Dieu, Dieu dit non, tu ne passes pas ni à droite ni à gauche, tu as toujours échappé, mais maintenant tu vas passer dedans, dans le filet. Et tu vas voir que tu vas certainement perdre de ta superbe et de ta liberté à laquelle tu tiens tellement pour te débrouiller tout seul et sans moi. Donc, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Qu'est-ce que je suis fatigué? Et qu'est-ce que la vie me fatigue? Elle m'épuise. La vie sociale, la vie d'une manière, la vie d'une autre, ce que je pourrais peut-être me dispenser, mais que j'ai tellement envie par passion. Et ça, c'est un fardeau moral, mais c'est un fardeau aussi physique, parce que pendant ce temps-là, je m'épuise. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Ah oui, la domination de l'homme sur l'homme. Moi, j'aurais toujours voulu être président de la République ou Premier ministre pour que j'aie rien au-dessus de moi. J'y crois, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, tu nous as humiliés, tu nous as mis dans une situation terrible. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Eh oui, c'est la saison en ce moment, de l'eau, du feu, et quelquefois pratiquement dans les mêmes régions. Ou alors éloigné, et on ne peut pas éteindre le feu sans eau. Mais tu nous en as tiré. Alors ça va être le verset majeur, le verset cardinal. Mais, ce petit mais, cette conjonction de coordination qui relie entre ce que Dieu, dans sa volonté permissive, a fait, et puis également de dire que c'est la main droite et c'est la main gauche de Dieu. D'un côté, il y a le côté épreuve, et de l'autre côté, il y a le côté délivrance. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Retenez le mot abondance, parce que ça, c'est important. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir des richesses. Tout le monde veut avoir des avoirs abondants. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y en a qu'un qui donne l'abondance. L'abondance intérieure et l'abondance extérieure, il s'appelle Dieu à travers Jésus-Christ. On a déjà tous les moyens pour être heureux. Hein. Ça va, vous êtes heureux ? Moi, j'aime votre enthousiasme. Ça vous fait sourire, mais il faut sourire. Et même quelquefois des plaisanteries du pasteur, qui m'arrivent assez rarement. Mais toujours est-il, ça c'est quelque chose dont nous avons besoin de nourrir dans notre cœur. Alors on va prendre les choses au fur et à mesure. Et dans cette consolation dans la brume, je ne vois plus rien, je ne sais plus où j'en suis rendu, il y a comme une descente au creuset des épreuves et il y a aussi des bénéfices à retirer des tempêtes de la vie. Il y avait un bouc, abrite-moi là, il y avait un bouc antique hein, tout à l'heure. Ah, il parle lui-même, moi, pour moi c'est une prédication. Ah ouais, ça vaut une prédication. Alors, descente, mais ce n'est pas une descente que je choisis moi-même, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. Et je ne peux rien y faire. Il y a des choses dans lesquelles on peut se délivrer, parce que bon, on a un petit peu d'expérience ou de technique ou de tactique, enfin je ne sais pas. Le creuset des épreuves. Vous savez, le mot creuset dans la Bible, c'est un avertisseur de choses difficiles à venir, hein, ou dans lesquelles nous sommes. Ça fait réfléchir sur le pouvoir du feu. Et quelquefois, le feu, il est là. Et le bénéfice à retirer des tempêtes. Je suis positif ou je suis négatif. Je prends les choses d'une mauvaise manière et là je vais couler. Ou alors, je pars déjà, même si ça me fait mal aujourd'hui, je pars avec le principe que Dieu a une réponse pour moi, spécialement taillée à ma taille. Enfin, taillée à ma mesure, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Chaque promesse divine, écoutez bien, est comme les flotteurs d'un filet. Moi, j'aime bien les proverbes, et même les proverbes populaires. Ah, j'ai plusieurs livres à la maison pour ça. Alors, chaque promesse divine, parole de Dieu, est comme les flotteurs du filet qui empêchent le cœur de l'homme, du croyant, d'être englouti par les eaux de la détresse. Ça vous va ? Vous voulez que je vous le relise ? Non ? Bon, je le relis quand même. Chaque promesse divine est comme les flotteurs d'un filet. Vous avez vu, il y a des filets là autour de nous, là, on est au bord de la mer. Eh bien, quelque part, c'est ce qui empêche le cœur de sombrer, d'être englouti dans la détresse, dans l'angoisse et dans la misère morale. Ce psaume commence ainsi, « Soyez toujours joyeux ». Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de nous souvenir de ce que Dieu veut et surtout de ce que Dieu peut faire, accomplir pour nous. Et d'ici quelques instants, nous allons passer en revue le texte que nous avons lu il y a un instant, mais avant, permettez-moi de relire les versets premiers de ce psaume, verset premier jusqu'au verset 8, si vous le permettez. Ça va nous donner une petite idée comment ça commence et comment ça finit. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu, c'est la prière, la louange, que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force et tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations à plus forte raison, les enfants de Dieu, dans son corps, qui est le corps de Christ, l'Église. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Eh bien, c'est ce que nous avons fait dans la première partie de notre culte. Ouais, c'est ce que nous avons fait. Alors maintenant, nous pouvons entendre le reste. D'accord ? Et le reste, c'est tout simplement, il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Je n'aime pas parler de moi, mais j'ai passé il y a quelques années, pendant 3 ans, 4 ans peut-être, et plus, parce que ça faisait longtemps que ça durait, mais sur une autre pathologie. Un temps, jusqu'à 50 ans, j'étais en bonne santé. Vraiment. Hein, je connaissais pas le médecin. Hein. Et à un moment donné, je suis rentré dans un espace de brouillard. Malade. Malade. Ça commençait par adénome carcinome à la thyroïde, dont j'ai du mal encore aujourd'hui à... Après, ça a été un problème de vessie. Le médecin pensait que c'était un cancer. Après, il était rassuré. Le lendemain matin, après l'opération, il m'a dit « Monsieur Ouvrard, ne vous tracassez pas. Mais je vais devoir vous opérer d'un cancer quand même. » Problème, gros problème que les hommes connaissent. Donc, il y a eu là une ablation. Et ensuite, c'était le problème du cœur, parce que tout s'y met, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, cardiologue, etc., etc. Et ça a véritablement été une période difficile, parce que quand j'avais pas mal d'un côté, j'avais mal de l'autre. Ah tiens, c'est curieux ça. Ça durait. Et j'étais à la retraite déjà à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai fait du rap, parce qu'il fallait bien faire tourner l'église. Hein. Pendant 8 ans, il a fallu apprendre des remplacements, il a fallu faire toutes sortes de choses. Et c'est vrai, pour maintenir l'Église, hein, c'était, et à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit, maintenant, il est temps. Hein, et d'ailleurs, le Seigneur m'avait montré en disant, maintenant, il faut que tu cèdes ta place, parce que c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça, parce que... Et c'est vrai que, quand je suis revenu, j'ai émergé un petit peu. J'ai fait un message qui s'appelait, « Tu m'as laissé vivre ». Et quand les choses se sont déroulées pendant tous ces mois, vraiment malade, malade. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, et j'ai pu lui dire à ce moment-là, quelqu'un qui était véritablement au courant de la chose, parce qu'il vivait à peu près la même chose que moi, je lui ai dit, tu sais, moi je fais confiance aux médecins, les médecins soignent, mais j'ai choisi le protocole du Saint-Esprit. Et effectivement, il a fallu du temps, de la patience, rester dans le brouillard sans rien voir, et à un moment donné, les choses se sont dissipées. Le brouillard, eh bien... C'est écarté. Et c'est vrai que quand je lis ce verset, « Tu m'as laissé vivre, Seigneur, tu m'as laissé la vie. » Et ça, c'est quelque chose de tellement important. « Tu n'as pas permis que mon pied chancelle vers la tombe. » Parce que c'était pas très loin tout ça. Hein. Pas pouvoir manger. Dans les premiers temps, j'en étais, avant de venir à Saint-Nazaire, à Angers, j'en étais rendu à quelques biscuits à la cuillère avec de la compote. C'est tout ce que je mangeais d'un. C'était assez effrayant pour Myriam, parce qu'elle se demandait si ça allait aller très loin, tout ça. Alors, on peut dire, tu nous as éprouvés, oh Dieu, et tu nous as fait passer au creuset de l'argent. L'argent, pour devenir pur, il est brûlé. Il n'est pas brûlé, mais il est nettoyé, il est purifié, il perd ses scories. Et moi, je pense que dans notre vie de chrétien, nous avons tous des scories naturelles et de naissance. Hein. Et quelquefois, nous en glanons au fil de notre vie, tout au long de notre vie. Et il a fallu que ça brûle. Il a fallu que ça soit véritablement, et bien là, il fallait passer par là, naturellement. Tu nous gardes la vie physique, tu nous gardes la vie morale, la vie spirituelle, et dans nos incertitudes, parce que là, c'est le brouillard, hein, on ne sait plus tellement où on va, combien de temps il nous reste, peut-être. Et dans nos incertitudes, il nous tient, il nous garde, et il nous a fait une promesse formidable que je vous livre ce matin. Nul ne vous ravira de sa main. Dans l'évangile de Jean. N'ayez pas peur, mes frères. Vous traversez le brouillard. Mais il est là. Lui, il voit. Vous, vous ne voyez pas. Et ce n'est pas d'importance que vous ne voyez pas. C'est la marche par la foi. Là. Un arbre qui est secoué en continu. On les voit, les arbres par ici, hein, quand ils sont sur la côte. Là, ils sont tous inclinés dans le même sens. Quand il est secoué par le vent, il est toujours mieux au fil du temps enraciné, pénétré dans la terre, dans le sol. Et comme nous, en tant que chrétiens qui sommes éprouvés, nous le sommes dans la grâce de Dieu et dans son amour. Nous ne perdons pas l'amour de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas, mais il est en train de nous fonder pour marcher, et bien là, dans sa grâce. Il y a plus de racines, il y a plus de solidité dans les tempêtes futures qui ne manqueront pas de venir. Et les épreuves d'aujourd'hui vont me préparer aux épreuves de demain. même si nous avons déjà du parcours. Ça, c'est une chose. Un peu plus loin, il est dit ceci. « Tu nous as amenés dans le filet et tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. » Eh oui, ça, c'est aussi un autre aspect. Éprouvé. Tu nous as fait passer au creuset, donc comme l'argent, nous l'avons dit il y a un instant, et la foi va devenir plus pure, non seulement comme l'argent, mais ce qui a encore plus de valeur que l'argent, c'est l'or. Eh oui, c'est l'or. C'est encore une autre dimension. Au verset 11, donc, tu nous as amenés dans le filet. Jamais, jamais seul, jamais abandonné dans l'expérience amère des peines et des souffrances, que ce soit le deuil. Il faut du temps hein, pour sortir d'un deuil. Que ce soit la maladie, que ce soit l'accident, d'une façon ou d'une autre, que ce soit aussi la méchanceté, que nous pouvons véritablement boire, quand je dis boire l'amertume, boire eh bien, l'aigreur de ceux qui sont peut-être à l'extérieur et qui n'ont pas de principes chrétiens et qui nous en font voir, hein, parce qu'on en a eu, hein, on en a vu. Celui qui veut rentrer dans le ministère, il faut qu'il s'attende à véritablement se pénétrer de cette idée. Hein, parce que vous savez, il y a des gens qui nous aiment, mais il y a des gens qui ne nous aiment pas du tout. C'est ce qui fait les guerres de religion, et on fait couler le sang et tout ça. Et même dans notre pays, vous savez, il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. Hein, et quand s'ils pouvaient nous faire du mal, heureusement qu'il y a des lois. Parce qu'autrement, ce serait encore les guerres de religion comme il y a eu déjà. Hein. Mais on le voit, l'Église persécutée. C'est ça, hein, de toute manière. Alors, tu nous as amenés dans le filet. On a donné quelques mots tout à l'heure. Nous ne sommes pas abandonnés. Amenés dans le filet, avec le sentiment d'être prisonniers. Ben oui, parce que c'est ça un filet, une nasse pour les pêcheurs hein, en rivière ou autre part. Eh bien, c'est que le poisson va rentrer, mais il ne va plus pouvoir sortir. Et c'est ça, justement, le filet. Qui est un sentiment que nous ressentons à se tourner à droite, à se tourner à gauche, devant, derrière, il n'y a rien à faire. Vous êtes prisonnier. Et s'il y a une chose que l'homme, même le chrétien, aime par-dessus tout, c'est sa liberté. C'est la liberté. Sans pouvoir sortir malgré nos ébats ou malgré nos débats. Et c'est le combat du désespoir. Comment faire? Tout prisonnier dans les prisons quelconques, eh bien, la première chose qu'il regarde, c'est la porte d'entrée et puis la fenêtre avec les barreaux. Et il se dit, comment je vais faire? Il y en a qui ont de l'imagination, hein, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être nous, quand on rentre dans le brouillard, dans cette prison-là, on se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Ben, si vous ne savez pas comment vous en sortir, il y en a un qui le sait. Ça se passera peut-être dans le temps, ça se passera d'une manière que vous n'avez peut-être pas pensé. Et puis, il nous est ajouté ceci, cette notion de pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes, c'est vrai, un pesant fardeau. Imagine l'accablement et l'épuisement dans la situation où nous sommes prisonniers du brouillard et de notre prison, et nous sommes à bout de force. Eh oui, tout à l'heure j'ai dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Et voilà. Et à ce moment-là, vous trouverez la paix, la liberté, tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, il y a un petit peu plus loin... Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Hein? Alors, le livre des Lamentations de Jérémie nous est dit qu'il est bon d'être humilié dans notre jeunesse. Bon, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est de l'éducation. Hein? Et ça, je crois qu'aujourd'hui, si la jeunesse a escalé, c'est que quelque part, ils ont zappé quelque chose ou les parents ont zappé quelque chose. C'est pas de faire du mal, c'est pas de violenter, c'est pas de faire là des choses qui sont répréhensibles par la loi, mais au moins d'éduquer nos enfants. Et ils ne seront pas à éduquer quand ils auront 10 ans, c'est au départ. Ah oui. Et puis après, ça évolue, hein, parce que l'enfant va grandir, il va devenir adolescent, il va prendre conscience de certaines réalités du monde dans lequel il est lancé pour vivre et réussir devenir un homme. Mais... On s'aperçoit que C'est difficile. Et c'est beaucoup plus difficile d'être éduqué par Dieu, nous les chrétiens, quand on a passé 50 ans, 60 ans, 70 ans. Hein. Là, à ce moment-là, on est figé dans le conservatisme et on ne veut plus rien entendre. C'est difficile. Moi, vous me dites ça à moi, mais moi j'ai tant d'années derrière moi, j'ai appris. Non, on apprendra jusqu'à la fin, de toute façon. Alors tu as fait passer des hommes sur notre tête. Moi j'ai eu une aventure sociale. Pendant que je travaillais, j'étais en entreprise, hein, où là, véritablement, je suis tombé sur des patrons qui étaient méchants. Hein, je peux vous dire. Hein. Une affaire sociale au tribunal juridique qui a duré 5 ans et ça finit en cour de cassation à Paris. Tu as fait monter des hommes sur eux. Et je me souviens toujours, au début de l'affaire, 5 ans auparavant, Myriam pleurait à la maison. Et moi, je lui disais, mais non, tu vas voir, le Seigneur va nous sortir. Je ne savais pas que c'était 5 ans après. Hein. Ah ouais, 5 ans après. Hein. Et c'était quelque chose de... Là, j'avais le sentiment, et c'est comme ça que j'ai mémorisé un peu ce passage, « Tu as fait monter des hommes sur moi. » J'avais une position de responsable, mais il y avait encore des gens qui étaient au-dessus de moi. Et je peux vous dire qu'est-ce qu'ils m'en ont fait baver. À un moment donné, on a dit, ben voilà. D'ailleurs, c'est pas moi qui suis parti, ils m'ont fichu à la porte. Et c'est là où a commencé le procès. « Tu as fait monter des hommes sur ma tête. » Quelle humiliation! Quelle humiliation! Parce qu'on n'avait rien fait. Hein. Nous, on s'était comportés en chrétien. Excusez-moi, ça peut arriver. Mais où véritablement on défendait notre entreprise. Ouais. Et ça, ça passait pas, puisque bon, il y avait un petit peu de choses douteuses. Alors nous avons passé par le feu et par l'eau. Oh, aïe, aïe. Ça, c'est quand même aussi, c'est chaud. Hein. Voilà. L'humiliation, la domination permise du mal et les tentations qui nous consument quelquefois. Vous savez qu'un un roseau à demi cassé continue à pousser et à porter du fruit, avec une nouvelle vigueur parce qu'il a été cassé en quelque sorte, et la grâce divine, il faut l'ajouter, est comme la rosée du matin qui descend en même temps sur le chardon et sur la rose. Et le Seigneur, eh bien, arrose tous les hommes, les bons comme les méchants. Ça, vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Oui. Il envoie sa bénédiction sur les bons comme sur les méchants. Et quelquefois, eh bien, il nous traite comme si nous étions méchants, bien qu'il nous considère comme ses enfants, ses fils et ses filles. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Voilà, c'est la douche écossaise, on dit ça, on appelle ça comme ça. Et puis, il faut rester sans révolte, parce que la révolte, et souvent il y a beaucoup de révoltes, dans le monde il y a de la révolte, hein, les fils de la rébellion, c'est ce que l'on voit. Une manifestation est interdite, mais on la fait quand même, hein, quitte à faire venir, là, les, comment ils appellent ça, les Black Blocs, pour qu'ils cassent tout, etc., et on dit, mais c'est social, non. Oui, bon, voilà. Sans révolte, le chrétien n'a pas à se révolter, même s'il ne comprend pas pourquoi il marche dans le brouillard, et qu'il ne voit pas finalement très clair. J'ai toujours été marqué par un passage, une révélation qui nous a été donnée, alors qu'on ne connaissait pas ce verset, qui à un moment ou à un autre, eh bien là, nous a été mis à tous les deux à l'esprit. Si l'esprit de celui qui domine, qui t'écrase, qui te fait passer par le feu et par le sang, si l'esprit de celui qui domine, alors à ce moment-là, ne quitte pas ta place, ne fuis pas. N'essaie pas de sortir de ta prison et du brouillard. Hein. Car le calme prévient de grands péchés. Mes frères et sœurs, quelquefois il y a eu des plans de Dieu qui ont échoué parce que nous avons répondu au péché par le péché. Parce que nous étions dans l'insupport de ce que Dieu avait permis. Mais si Dieu permet une tentation, s'il permet une épreuve, c'est qu'il vous a choisi comme Job parce qu'il était sûr que Job allait s'en tirer et qu'il aurait la bonne réaction. Pensez-y, parce que Dieu ne permet pas des choses qui sont au-delà de nos capacités, de nos moyens. Vous le comprenez, ça, hein, bien sûr. Tu as fait monter des hommes sur notre tête, ce sont l'image des pensées douloureuses et tourmentées, et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais bientôt terminer. Ainsi se parcourt dans le brouillard, dans la brume, ainsi se parcourt dans nos prisons. Fort heureusement, ce ne sont pas des prisons hein, comme on voit à l'extérieur, mais ce sont nos prisons intérieures, où Jésus nous dit, ou plutôt l'apôtre Paul nous dit, puisque c'est dans Romains chapitre 8, hein, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si véritablement Dieu a permis, c'est ce que je disais précédemment, s'il a permis ceci et cela, c'est qu'il a de bonnes raisons, c'est qu'il est en train de nous affiner, il est en train de nous passer au creuset, et il sait que ça fait partie de son plan qui nous est propre et personnel. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Aimer Dieu, c'est notre force. Ajouter la foi à tout cela, l'amour. La foi, eh bien, c'est ainsi que Dieu va réaliser son plan. Et ça peut nous emmener très loin. En tous les cas, ça nous emmènera de l'autre côté, là où nous ne souffrirons plus. Ce parcours qui brûle le mal, qui brûle le mal en nous, l'eau qui illustre la soudaineté et les variations et les transitions brutales de nos états d'âme. On en a parlé, moi j'avais une pensée, mais ce n'était pas en rapport avec... Finalement, je n'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir le rapport. Oui. Nos états d'âme, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Ça vire, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, je viens d'entendre des choses qui sont très désagréables, on m'a fait du mal, on m'a dit des mots, etc. Mais c'est mon âme qui va réagir au départ, parce que je suis un être, je suis une personnalité, et je crois que Jésus a vécu les choses, mais il ne faut pas les laisser dominer, ces états d'âme, parce que ça peut durer des jours, ça peut durer très longtemps, et on peut les avoir toute notre vie. Et c'est là où véritablement il y en a un qui se frotte les mains en disant « mon bonhomme », enfin, ou « ma bonne femme », excusez-moi mesdames. On dit beaucoup plus pour mon bonhomme. Eh bien, voilà, tu es bien coincé avec tes états d'âme, mais c'est la vie de l'esprit qui est importante. Et c'est elle qui va nous faire triompher. C'est elle qui va nous faire avancer. Quelquefois, on a des nouvelles défaitistes. Ah ! J'ai raté mon examen. Moi, je ne suis pas une lumière. Non, mais je vous le dis, hein. Quand j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai passé 5 fois. C'est quand même pas un challenge, hein. C'est pas un... Ouais, je suis loin de faire le Tour de France, hein. Enfin, vaut mieux prendre un vélo quand vous ne pouvez pas avoir de voiture. Mais toujours est-il, il y a une parole de Luther, Martin Luther, vous savez, hein, pas Luther King, mais Martin Luther, au moment de, finalement, de la réforme, il écrit ceci. « Consoler une âme abattue est une œuvre aussi miraculeuse que de ressusciter un mort, que de faire marcher un paralytique, que de changer l'eau en vin. » Oui, oui, oui. Consolez une âme. Consolez-vous les uns les autres et ne donnez pas de commentaires à vos consolations en disant « oui, je te console, c'est vrai, je partage avec toi et tout ça, mais t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela. » Taisez-vous. Alors là, ça vous fait rire, franchement. Vous pensez à quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai. Consoler, apporter de la consolation, apporter de la commisération, c'est un baume, c'est un remède, ça c'est important. Et sachons que quand Dieu met un homme sur le dos, c'est pour qu'il regarde la lumière des étoiles dans la nuit et espère le jour nouveau du matin. Parce que je voudrais vous dire une chose. À 100% les statistiques sont justes. Après la nuit, il y a un jour. Et après le jour, il y a la nuit. Bravo, hein, je suis, c'est vraiment de la science, ça. Non, c'est simplement de l'observation, on n'a même plus besoin d'observer, on sait comment ça se passe. Alors, c'est vrai. Et nous avons besoin, tout simplement, de chanter comme les oiseaux chantent au printemps. En ce moment, moi, j'ai trouvé cette année qu'il y avait beaucoup d'oiseaux. Ah oui, on a un grand arbre devant chez nous, et ils vont même faire leur nid, les petits moineaux, dans la gouttière au-dessus de mon toit, et un jour, je me suis retrouvé avec Sado dans tout l'appartement. C'était terrible. Ah oui, parce qu'on a barboté pendant une journée. Alors, oui, chantons comme les oiseaux chantent au printemps, mais aussi, et souvent en hiver, alors dans les tribulations existentielles, comme nous avons dit, disons comme le poète, je m'éveille. Ouais. J'ouvre mes yeux, et je suis encore avec toi, Et Dieu répond, mais tu es toujours avec moi. Je finis avec une référence au psaume 23. David, l'Éternel est mon berger. Et il pouvait dire, David, tu es mon berger. Et tu nous en as tiré de tout cela pour nous donner quoi ? L'abondance. C'est dans le texte, hein ? Ouais. Pour nous donner l'abondance. Et on veut tous être riches. On voudrait tous, eh bien là, des nantis. Et l'écho répond, selon les termes du psaume 23, moi je le dis, je ne manquerai de rien. Et je voudrais vous affirmer, ça fait 40 et quelques années que nous sommes dans le ministère, on n'a pas eu des gros salaires, hein. Mais une chose qui est certaine, ce n'est pas un reproche que je vous fais, hein, parce qu'on a vécu, hein, on a bien vécu même, très bien vécu, mais je ne manquerai de rien. Et c'est vrai que nous avons vu que, en quittant notre profession, où là nous avions ce qu'il fallait, eh bien, nous avons manqué de rien, même pour élever nos trois enfants. Tu nous as donné du repos dans de verts pâturages. Ça, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Et c'est toujours de la fraîcheur. Hein. Ce n'est pas de la pâture qui a été moissonnée trois mois avant. Hein. Tu nous as dirigés vers les eaux paisibles. Nous ne savions pas où nous allions dans ce brouillard. Mais tu nous as conduits vers la paix. Sur les sentiers de ta justice, nous ne sommes pas égarés, soit par la révolte ou autre chose, dans l'injustice et l'iniquité. Tu as restauré mon âme. Moi, j'ai toujours été contemplatif de la grâce de Dieu, parce que ça paraît pas comme ça, hein. Mais je suis quand même relativement fragile au niveau psychologique. Pendant une grande partie de ma vie, j'étais pas malade physiquement, mais j'étais souvent assez fragile. Et à un moment donné, quand je me suis donné au Seigneur, progressivement, ça s'est passé du jour au lendemain, hein, mais progressivement, ça s'est véritablement atténué. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir vivre en paix, intérieurement, psychologiquement. Hein. Tu as restauré mon âme, et voilà les causes et les raisons pourquoi cette partie du psaume 23 a été écrite. En raison de la foi en ton nom, Seigneur. La foi en ton nom. Parce qu'à la croix du calvaire, Gethsémané, ce sont les souffrances psychologiques. À la croix, c'est les souffrances physiques. Et nous avons tout, là. Alors, le verset 13. « J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi, et de mes lèvres, elles seront ouvertes pour tout simplement... Eh bien, calmer, traiter, guérir la détresse des autres. Ouais. Ce matin, c'est pour ça que nous sommes là, bien sûr. J'irai dans ta maison avec l'offrande et les louanges, j'accomplirai mes vœux, j'accomplirai ta volonté. Et tout ça fait écho encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et de dire, comme le poète dans nos tribulations existentielles, je m'éveille. Et je suis encore avec toi, et toi, tu es encore avec moi. Ta présence avec moi, chez toi, dans ta maison, Seigneur. Et la maison du Seigneur, elle est ici. Et la maison du Seigneur, elle est dans mon appartement. Elle est dans votre maison. Elle est là où vous êtes, où le Seigneur, véritablement, a la première place. Il y a un homme qui s'appelait Pierre, dans l'Évangile. Il ne comprenait pas, il était dans le brouillard parce que Jésus voulait lui laver les pieds. Quelle histoire! C'est vrai qu'il y a des choses assez cocasses. Hein. Il a dit « Non, tu ne le feras pas, Seigneur. Tu ne le feras pas. » Et Jésus va lui répondre, qui nous montre bien le soulignement de l'abondance. Il lui dira « Ce que je fais, dit Jésus à Pierre, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Mes frères et sœurs, nous allons prier quelques instants. Et moi, je voudrais qu'aujourd'hui, ça soit un jour de délivrance, un jour où vous allez prendre le dessus sur peut-être ce qui vous envahit, ce qui vous maltraite, ce qui vous rend malade d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, Si vous dites, mais je suis encore dans mon brouillard, je suis encore dans ma prison, mais le Seigneur vous répond, mais si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre plus tard, parce que derrière la parole que je suis en train de vous donner, il y a l'action du Saint-Esprit, et nous avons prié pour que l'action du Saint-Esprit agisse dans chacune de vos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as fait passer pour chacune de nos vies, d'une manière ou d'une autre. Tu nous as fait passer par, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tribulations, des rejets, des contrariétés, des vexations, des blessures, tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est formidable, c'est que tu nous dis dans ce texte, pour te donner l'abondance. Alors, nous voulons ouvrir notre cœur maintenant. Et je te demande pour tous mes frères et mes sœurs qui souffrent d'une situation peut-être familiale, qui souffre avec des enfants, qui souffre avec peut-être un conjoint ou une conjointe, qui souffre peut-être de culpabilité parce que les choses sont ainsi, glanées, Seigneur, au cours des âges, au cours de la jeunesse, au cours de l'enfance peut-être, des meurtrissures, des violences, toutes sortes de choses semblables. Tu nous en as retiré pour nous donner l'abondance. Et là, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Même si je comprends pas le chemin que tu me fais passer, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vraiment, je vais laisser tout ça derrière mon dos. Mais une chose qui est certaine, c'est que si j'entends, si j'ai entendu, si j'ai reçu, si tu as inspiré ce message, c'est qu'il est pour moi ce matin. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.